ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, nous recevons Fernande Leblanc-Sénéchal, natif des îles de la Madeleine. Elle fut commissaire puis présidente de commission scolaire sur la rive sud de Montréal et depuis 2000, elle est la directrice générale de la maison de Jonathan. Elle est aussi active au sein du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage scolaire. Une constante dans son parcours, la réussite des jeunes et la lutte au décrochage. Depuis 1981, la maison de Jonathan de Longueuil vient en aide aux jeunes de 12 à 17 ans et qui vivent des difficultés personnelles, familiales, scolaires ou sociales. Et l'approche éducative de la maison de Jonathan vise avant tout à développer et à rétablir l'estime de soi des adolescents. Alors nous allons la découvrir aujourd'hui, une femme et un organisme dédié au bien-être de la réussite des adolescents. Fernande Leblanc-Sénéchal, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'être invitée.
Je suis très, très heureuse de vous avoir en studio. Puis en plus, au niveau de ce qui se passe un petit peu dans la rue avant de commencer votre parcours, les jeunes sortent, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que vous, vous travaillez avec les jeunes, les adolescents, ceux un petit peu plus vieux. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que tout le monde sort pour dire « c'est assez » ?
Bien, évidemment, je trouve qu'il est temps que les jeunes se prennent en main puis qu'ils disent enfin au gouvernement du Québec, ça suffit. Ça suffit, on a été coupés partout en éducation. C'est incroyable les coupures qu'il y a eu depuis des années. Et plus ça va, plus l'éducation s'appauvrit. Et c'est triste parce qu'une des premières priorités au Québec, ça devrait être l'éducation. Parce que quand on a l'éducation, ça évite beaucoup de problèmes de santé. Et jamais c'est priorisé, l'éducation. C'est difficile de voir ce qui se passe aujourd'hui. Je vous avoue que je suis fière de ces jeunes-là qui sont dans la rue pour dire « assez, c'est assez
». Alors, vous êtes native des îles de la Madeleine. Racontez-moi un petit peu votre enfance, comment c'était là-bas aux îles.
Bon, d'abord, je suis née d'une mère et d'un père et d'une mère qui a eu 21 enfants. Je suis la 14e de ces 21-là, entre autres deux jumelles. Donc, j'ai vécu dans une grande famille, aux îles de la Madeleine, bien sûr. Mes parents étaient très impliqués. Ma mère, malgré ses enfants qu'elle avait à la maison, je vous dirais toute la troupe de jeunes garçons et
oui,
jeunes filles.
Oui, parce que c'est beaucoup, là. C'est...
Oui, elle a quand même tenu pendant sa vie un restaurant aux îles de la Madeleine. Je vous dirais que c'est un des premiers restaurants qui a été ouvert aux îles de la Madeleine qui s'appelait Le Petit Canot. Donc, vous comprenez que moi, j'ai eu ma mère comme mentor pendant toute ma vie et encore aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'elle a accompli avec une si grande famille et être capable
et
aussi et de travailler. Et elle a toujours travaillé. Et Dieu seul sait qu'avec 21 enfants, même si elle avait de l'aide des plus vieux, elle travaillait comme une déchaînée jour et nuit et jamais, jamais ma mère s'est plainte du travail qu'elle faisait.
21 enfants, vous situez où?
Moi, je suis située entre la 13e et 14e parce que je suis jumelle. Donc, il y en a eu 13 avant moi. Là.
Comment c'était organisé à l'intérieur de la maison avec 21 enfants? Chacun avait des tâches?
Ben, c'est bien sûr que les plus vieilles de la famille avaient des tâches. Quand ma mère occupait entre autres le poste de responsable de son restaurant, mes plus vieilles des sœurs se sont occupées des plus jeunes. Mm-hmm. Donc, on a eu une mère qui était super active, qui s'est occupée de nous, mais nos plus vieilles sœurs se sont occupées beaucoup plus de nous. Maintenant, je vous dirais que ma mère, qui est décédée à 92 ans il y a quelques années, ma plus vieille des sœurs, Lucienne et Irène, ont pris la relève. Donc, pour nous, ils ont été des sœurs, mais plus particulièrement des mères, parce que ma mère était occupée à faire autre chose, pour nous faire vivre d'ailleurs, mm-hmm. parce que pour faire vivre une famille de 20 enfants, fallait travailler fort. Donc, mon père, ma mère apportaient les soins à la maison et mes sœurs s'occupaient beaucoup de nous, qui étaient beaucoup plus jeunes.
Mm. Et vous, Vous aviez envie de faire quoi étant plus jeune?
J'avais envie aux îles de d'abord terminer mes études parce que aux îles de Madeleine, dans les années 70, on n'avait pas de cégep. Donc, pour aller étudier, il fallait partir à Montréal. Et moi, je voyais ma mère travailler tellement fort, d'abord avec sa famille et d'abord aussi avec le restaurant, que je me disais, j'ai pas le goût, moi, de vivre ce que ma mère vit pendant ces années, à travailler quasiment presque 20 heures sur 24, puis toujours être sur le roulant. Je me disais, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai le goût d'aller ailleurs, de me trouver une carrière, puis de travailler, mais donner aussi de mon temps. Puis, c'est sûr qu'aux Îles-de-la-Madeleine, les postes, les emplois sont très rares. Donc, si tu veux aller plus loin dans ta vie, il faut que tu ailles t'exiler à Montréal pour aller aux études. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis revenue. J'avais l'âge de 17 ans. J'avais même pas encore 17 ans quand je suis partie des îles pour venir étudier. Voilà, et j'ai fait carrière à Montréal.
Alors, il y a eu évidemment, après le cégep, le bac en administration publique à l'UQAM.
Oui.
Direction, est-ce que vous aviez une idée de en faisant ce bac-là, de dire, bon, mais moi, je vais aider, parce que le mot aider, vous l'avez dit déjà en introduction, envie d'aider les autres, vous avez vu votre mère aider et faire des choses tout le temps. Et là, est-ce que ça se profilait de...
Oui, quand j'ai décidé de retourner aux études pour aller prendre mon bac, quand je suis partie des Îles-de-la-Madeleine pour venir étudier, je suis allée étudier en commercial. Donc, j'ai fait des études en comptabilité. Je me suis trouvé un emploi, je me suis mariée entre-temps, j'ai eu deux beaux enfants que j'admire. Et vers l'âge de 30 ans, je me suis dit, ah, j'ai le goût de m'impliquer quelque part, j'ai le goût de faire autre chose. Et je me suis présentée à la commission scolaire Taillon dans le temps comme commissaire d'école. Ma fille venait de rentrer à la maternelle et je me disais, ben, pour occuper un poste de commissaire d'école, il me semble qu'il faut que j'aille chercher d'autres bagages que je n'avais pas. Et c'est là que je me suis inscrite à l'UQAM que pendant 6 ans. Je suis allée prendre des cours pour aller me chercher un bac en administration publique parce que je trouvais que c'était important.
Ouais.
Et au cours de ça, ensuite, quand j'ai été commissaire, 2 ans après, je me suis présentée à la présidente de la commission scolaire et j'ai été élue.
C'est ça, papy élu pendant vous avez été là pendant 10 ans.
Ah, beaucoup plus que ça. J'ai été là pendant...
10 ans comme présidente?
12 ans comme présidente.
12 ans.
12 ans comme présidente et 5 ans comme commissaire d'école. Et ça a été vraiment là... une super belle expérience.
Et à côtoyer les jeunes, c'est pour ça qu'au début de l'émission, je voulais aller dans ce qui se passe en ce moment, parce qu'à côtoyer les jeunes, à côtoyer les parents, à côtoyer le système, à essayer de voir comment on peut faire grandir tout ça, vous avez vu des lacunes.
Effectivement, oui. Quand tu es dans le système d'éducation, on en voit des lacunes. Puis, étant donné qu'il y a puis les coupures ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent depuis très longtemps. Donc, après ma présidente de la commission scolaire, je me suis dit, je vois tellement le milieu, je vois tellement comment ça fonctionne. Il y a tellement de jeunes qui ont besoin d'aide, qu'on ne peut pas aider dans les écoles pour différentes raisons. Et ici, au contraire, je ne blâmerai pas les profs qui s'occupent de ces jeunes-là. Sauf qu'avec des classes de 30-35 jeunes, c'est impossible d'être capable de donner une éducation qui a du bon sens à chaque jeune. Parce que les jeunes ne fonctionnent pas tous de la même façon. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai connu la Maison Jonathan pendant que j'étais présidente de la commission scolaire et je me suis dit un jour, je ferai du bénévolat à la Maison Jonathan parce que les jeunes, ils m'impressionnent beaucoup. Puis j'aime beaucoup ces jeunes-là. Et je les voyais dans les classes, je les voyais dans les écoles. Mais j'étais une présidente quand même très, très présente dans les écoles. Et un jour, je me disais, je ferai quelque chose pour ces jeunes-là. Et comme ça, par hasard, on est venu chercher pour remplacer un intérim de 6 mois à la Maison de Jonathan. Et aujourd'hui, ça fait 16 ans que je suis avec ces jeunes-là et c'est un grand bonheur de travailler avec eux.
On va revenir au système public.
Oui.
Les dossiers que vous avez aimé traiter.
Ben, quand tu es à la présidence de la commission scolaire, on traite à peu près tous les dossiers. Il n'y en a pas un qu'on ne traite pas. On traite les dossiers des élèves HDA, particulièrement les élèves en difficulté d'apprentissage, ceux que les jeunes qui fréquentent la Maison Jonathan. Il y a eu le dossier du budget qu'on s'est battu bon an, mal an sur les coupures gouvernementales. Les dossiers, entre autres, de s'assurer que malgré les coupures, que les services continuent dans les écoles. Ce qui est important parce que, et il a fallu couper, bien sûr, malheureusement, dans les centres administratifs, les postes qu'on a besoin de, pour être capable d'être des chiens de garde aussi des écoles. On n'a comme pas le choix. C'est pour ça que moi, la survie des commissions scolaires, j'y crois. J'y crois. Il faut que ça demeure en place. Parce qu'il faut que ces gens-là aussi soient capables de diversifier les écoles pour savoir où sont les besoins et gérer tout ça. Et ça a été un de mes dossiers. Tous les dossiers, de toute façon, qui concernent l'élève, on les travaille à la commission scolaire comme présidente et comme commissaire. Et les dirigeants aussi, c'est la même chose. Donc, tous les dossiers étaient importants, mais je dois vous dire que le dossier, on s'est battu souvent. Et avec la Fédération des commissions scolaires du Québec, c'est les coupures en éducation. C'est impensable. Et vous voyez, je suis
là... Et c'est récurrent, ça revient tout le temps.
C'est récurrent, ouais. Ça revient tout le temps. J'ai passé 18 ans de ma vie presque à la commission scolaire, puis déjà, les coupures se faisaient sentir. Vous imaginez aujourd'hui?
Quand on voit des titres de journaux, quand les gens disent que les enfants sont gâtés, vous réagissez comment, vous?
Ah, ça me met un peu en furie. C'est pas tous les enfants qui sont gâtés, c'est pas vrai. Je peux vous en parler longtemps, des jeunes qui viennent à la maison, Jonathan, puis des jeunes qui vont aussi dans d'autres organismes à Longueuil et partout au Québec. C'est pas vrai que les gens sont gâtés. Oui, les gens sont gâtés quand les familles ont les moyens de les gâter un peu, mais 80 % de ces jeunes-là ne sont pas gâtés, comme on le dit.
C'est beaucoup, pas vrai. Hein? Quand vous dites 80 %,
c'est beaucoup.
Énorme.
C'est énorme. Puis je pense qu'il serait temps qu'on les écoute, ces jeunes-là.
Alors, vous choisissez les chansons à cette émission. Puis vous devez nous dire pourquoi. Vous avez choisi Clémence Desrochers, Deux vieilles. Pourquoi?
Ah, parce que je l'aime beaucoup. Ces chansons sont pleines de douceur, sont pleines de réalité. Donc, quand j'écoute Clémence, je les écoute les yeux fermés. C'est les mots nous ressemblent. Et bien sûr, on s'en vient tous en vieillissant. Et je trouve tellement beau ces chansons, et particulièrement les deux vieilles.
On l'écoute.
L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes? Resterons-nous tendres complices de mes manies, de tes caprices? Dans le secret d'une maison, le château fort de nos saisons, où je fredonne un air ancien. Cet été, je ferai un jardin. Quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes, descendant lentement le temps, et qui s'arrête de temps en temps. Tu cherches long, moi le soleil. Les gens diront, voyez les vieilles qui sont ensemble depuis toujours et qui mourront le même jour. Thank you. l'été quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui sont ensemble depuis toujours, qui partiront, le même jour.
Clémence Desrochers, votre choix, une femme que vous admirez?
Ah, tout à fait, oui. C'est une femme qui a fait beaucoup pour nous, la gente féminine. C'est une femme qui nous permet de passer au travers de toutes les choses. Si vous prenez, entre autres, son monologue sur la ménopause. On est tous inquiets quand on arrive vers l'âge de 50 ans, et pourtant, quand Clémence nous en parle, c'est tellement naturel.
Puis il y a du rire aussi.
Puis il y a du rire dans ça. Ça nous permet de le vulgariser autrement. Moi, j'aime beaucoup cette dame.
Fernande Leblanc, Sénéchal, vous êtes directrice de la Maison Jonathan. Vous travaillez avec les jeunes. Avant cette pause musicale, vous me parliez du 80 % des Québécoises et des Québécois, des jeunes qui n'ont pas ce bagage et financier et d'amour nécessaire pour poursuivre. Vous travaillez avec le décrochage scolaire. Pourquoi ces jeunes décrochent, d'après vous?
Bien, la plupart... Je voudrais juste revenir sur le pourcentage. Quand je parlais de 80 % des Québécois, c'est quand on parlait des jeunes qui sont gâtés. Okay. Je vous dirais que pour le décrochage scolaire, je pense que les dernières statistiques au Québec, c'était à peu près 26 %.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme en Montérégie. Je vous parle de la Montérégie ici. Pourquoi ces jeunes-là décrochent? Ces jeunes-là décrochent parce que, ils ont des problèmes personnels, bien sûr. Un peu de problèmes de toxicomanie, on ne s'en cachera pas. Et surtout un problème que des jeunes qui ne peuvent pas fonctionner dans des grands groupes dans les écoles. Je pense que l'école est faite pour tout le monde, mais de différentes façons. Et ces jeunes-là, quand ils sont dans une classe de 30, 32, 33 élèves, que le prof qui est en avant enseigne la matière et que lui, il a de la difficulté à comprendre. Parce qu'il faut dire que les décrocheurs aussi, ils ont des problèmes de TDAH, des troubles d'apprentissage, peu importe le trouble. C'est assez difficile de suivre un enseignant en avant d'une classe quand déjà tu ne comprends pas la matière. Donc, ces jeunes-là, c'est sûr qu'au bout de quelques années, secondaire 1, ça commence déjà au primaire à décrocher de l'école. Donc, quand t'es en cinquième, sixième année primaire et que t'as pas compris ta matière, quand t'arrives au secondaire, dans des grandes classes, c'est encore pire.
Oui.
Donc, ces jeunes-là ont de difficultés à comprendre et au bout de 6 mois, 1 an, ils décrochent. Ils ont l'impression qu'ils sont pas faits pour l'école, qu'il y a rien pour eux.
Mais je vais revenir sur le primaire.
Oui.
Quand ils décrochent, au primaire, là, il y a des gens qui nous écoutent plutôt se dire, mais oh, on peut décrocher au primaire, on peut déjà perdre l'enfant au primaire?
Ah, on peut déjà perdre l'enfant au primaire dans les matières académiques, c'est clair. Le jeune qui est diagnostiqué TDEH, des fois souvent au secondaire et un peu trop tard, quand ils sont diagnostiqués au primaire, ils ont le même problème. Donc, ils veulent apprendre, mais ils ne sont pas capables d'apprendre de la façon comme les autres. Donc, déjà en cinquième, sixième année, ils peuvent déjà voir dans les écoles que cet enfant-là va avoir de la difficulté quand il va arriver au secondaire. Donc, c'est sûr que ces matières académiques, s'il ne les a pas compris au primaire, il ne les comprendra pas plus quand il va arriver en secondaire 1, secondaire 2. Les jeunes qui viennent chez nous à Maison Jonathan, souvent, ont l'équivalent en matière académique français, en mathématiques, sixième année primaire. Donc, on part de loin. Ils arrivent chez nous, ils ont fin secondaire 2, début secondaire 3, début secondaire 4. Mais tout le temps, ils ont traîné leurs
traînent.
Difficultés.
Ouais, c'est ça. Et est-ce que c'est pas détecté? Parce que, bon, on a parlé de coupure et ça, c'est souvent Hein? Mm-hmm. Ça, c'est un rapport direct entre les coupures et des spécialistes qui vont aller dans les écoles pour dire votre enfant a un déficit d'attention, diagnostiqué par manque de personnel. Est-ce que c'est pas aussi imputable à ça, le fait de manquer de personnel, de pas attraper cet enfant-là à temps, et là il traîne son boulet?
Ah ben c'est clair que c'est parce qu'on manque de personnel dans les écoles, dans les classes. Quand un prof a, je reviens encore sur le prof, il y a 32, 33 élèves, puis qu'admettons que dans sa classe, ils ont 4 élèves diagnostiqués TDEH, trouble d'apprentissage. Même si la classe a un peu de support de l'école pour ces jeunes-là, ils n'ont pas assez de support pour les aider complètement. Mm-hmm. Et on a fait depuis quelques années l'intégration de ces élèves-là dans les classes. C'est beau, l'intégration, mais il faut donner le service. Et on n'a pas de sous pour donner le service. Si j'ai besoin, par exemple, d'orthopédagogues, de trois pédagogues dans une école pour le secondaire 1, 2, qui, à mon avis, est très important, c'est là le départ du secondaire, puis qu'on en a une pour l'ensemble du secondaire 1 ou du secondaire 2, ça ne se tient pas debout.
Puis en général, elles vont en satellite, hein, ces personnes-là. Ils n'ont pas assez de financement pour avoir quelqu'un à temps plein.
Voilà, fait qu'ils se promènent d'école en école.
D'école en école. Et puis finalement, il faut être chanceux de tomber sur la journée. La personne va être là et va pouvoir détecter votre enfant. Là.
Exactement.
Oui. Alors, donc, il y a ça. Il y a que, vous l'avez bien dit, les classes sont pleines. Il n'y a pas assez. Puis ça, il ne faut pas le jeter tout sur les professeurs parce qu'ils en ont là. Ils ont les mains pleines, comme on dit. Au primaire, ils décrochent parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Finalement, ils traînent le boulet, puis arrivent au secondaire, ça y est, ils ne sont plus intéressés à l'école, c'est ça?
Tout à fait. Ils ne sont plus intéressés parce qu'ils ont l'impression, ils coulent leur matière tout le temps, donc ils ont l'impression qu'ils ne sont rien. Puis, évidemment, je comprends que le prof de l'école va mettre l'effort sur ceux qui fonctionnent bien. Mais lui, là, il est qui pour lui? Donc, il décroche, dit « moi, je ne suis plus rien ». Et c'est aussi des problèmes familiaux, il ne faut pas s'en cacher.
Oui,
tu as quand même des jeunes que les parents, que les jeunes se laissaient eux-mêmes parce que les parents, par peu de moyens, ou cherchez-moi toutes les raisons que vous voulez, ne peuvent pas s'en occuper du jeune. Le parent qui, lui, a une cinquième, sixième année ou première année du secondaire, qui ne l'ont pas fait, son secondaire, on ne peut pas les blâmer, mais ils ne sont pas capables d'aider son jeune. Surtout aujourd'hui, avec les curriculum qui changent puis les matières tout le temps. Ils ne comprennent rien. Donc, la famille décroche aussi. Il y a aussi une question de pauvreté dans tout ça. C'est des gens qui sont démunis intellectuellement et financièrement. Donc, le jeune...
Ça fait beaucoup. Puis en plus, souvent, ils ont le ventre vide hein, pour aller à l'école.
Souvent, ils ont le ventre vide. Ils ont la plupart du temps le ventre vide, rien à manger. Très peu dormi le soir. Des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, souvent, qui se couchent à minuit, 1h, 2h du matin. Donc, comment vous voulez qu'ils fonctionnent à l'école? Parce qu'il n'a pas non plus de discipline à la maison. Je ne vous dirais pas que c'est la majorité des parents, mais une grande partie des parents s'occupent très peu de leurs jeunes. Et ça, c'est dommage.
C'est quelque chose que vous dites, ça?
Oui.
C'est grave, là. Il y a beaucoup de parents qui ne s'occupent pas de leurs jeunes.
Ben, c'est grave parce que dans le sens où le parent n'a pas reçu l'éducation pour savoir... Parce que de toute façon, quand on a des enfants, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas de guide pour savoir comment les mener. Et ces parents-là sont déjà très démunis d'eux-mêmes, de leur vie qu'ils ont passée. Ils ne trouvent pas les moyens d'aider ces jeunes-là. Parce que je suis sûre qu'intérieurement, c'est des bons parents. Mais ils ne savent pas comment faire pour supporter son jeune. Donc, il y a un peu de laxisme de leur côté. Et le jeune, pareil. Donc, le jeune est un peu laissé à lui-même.
Qu'en est-il de le fait qu'il y ait, pour les garçons, parce qu'on a en vue encore, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours autant, là? Ça s'équilibre un peu?
Ça s'équilibre. Mais en Jonathan, les jeunes qui viennent chez nous, c'est 50% garçons-filles.
Bon, ça c'est un
bon
équilibre, malin, comme on dit.
Ouais. Il y a un équilibre.
Il y a plus un équilibre en ce moment, mais... Ouais. Pensez-vous que le fait d'avoir peu d'hommes éducateurs, ça change les choses parce que le garçon ne se retrouve pas dans l'éducatrice? Il y en a peu. Au primaire, c'est quasiment zéro, là.
Il y en a très peu
au primaire, là. Il faut les compter sur une main, quasiment, là, dans une école.
Tout à fait.
C'est quelque chose. Vous êtes...
Moi, je suis d'accord avec vous parce que le garçon... Il a besoin de quelqu'un pour s'identifier. Puis c'est vrai que c'est que des femmes qui sont enseignantes. On dirait que les femmes sont beaucoup plus missionnaires. Je ne comprends pas pourquoi les gars ne prennent pas le système d'éducation. Parce que nos jeunes garçons ont besoin de ça. Ils ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Et ils sont dans des classes avec des professeurs femmes. C'est difficile pour eux.
Il y aurait peut-être moins de décrochage aussi.
Peut-être qu'il y en aurait moins chez les garçons. Peut-être. Oui. Mais encore là, s'il y avait plus d'argent en éducation, il y en aurait moins de décrochage. Je pense qu'on s'attaque à la...
Plus d'argent public.
Plus d'argent public, bien sûr. On s'attaque au décrochage scolaire, mais on ne met pas les bonnes ressources à la bonne place.
On a une autre chanson.
Okay.
On a une autre chanson que vous avez choisie. C'est pas moi qui l'ai choisie. C'est Zaz, on ira. Pourquoi?
Ah, parce que c'est une jeune Française super dynamique que j'aime beaucoup quand elle chante. Là, son accent, ça roule, puis j'aime beaucoup.
Alors, on l'écoute.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. N'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête. Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Fernand Leblanc, sénéchal, est avec nous en direct de la maison Jonathan et également trésorière du regroupement des organismes communautaires québécois de la lutte au décrochage. Vous êtes la personne tout à fait indiquée pour nous parler de ce dossier, des jeunes. Donc, le fait qu'on décroche, qu'ils décrochent, et c'est toujours présent. On parlait commission scolaire, publique, enseignement privé. Quel est votre point de vue là-dessus?
Ah ben c'est clair que pour moi, que l'enseignement privé, j'apprécierais qu'il soit d'abord financé par les parents qui envoient leurs jeunes au privé et que l'argent du privé revienne au public. On aurait moins de problèmes de décrochage si on pouvait recouvrir cet argent-là. J'ai aucun problème à ce que le privé existe, mais à partir du moment où tu choisis d'envoyer ton enfant au privé, tu choisis de payer aussi. C'est un bien que tu vas chercher. Donc, aussi longtemps que je vivrai depuis ma tendre enfance, je préférais aller au public. J'ai eu deux enfants, moi aussi, et j'ai eu le bonheur de les envoyer au public. Et aujourd'hui, c'est des enfants qui ont des métiers, qui travaillent. Ils sont allés au public. Donc, c'est bien sûr que le privé, il existe, mais on constate aussi, quand j'étais à la présidence des commissions scolaires, on a constaté souvent que les jeunes sont inscrits au privé. Mais il y a des quotas. Et quand tu vas au privé, tu as des moyennes que tu dois respecter. Donc, un jeune qui, finalement, on se rend compte qu'au privé, il ne réussit pas comme les valeurs du privé veut que ça existe, on va le retourner au public. Donc ça, je trouve ça un peu déplorable. À partir du moment où le parent paie, mais vous devez offrir ces services-là au privé. Parce que je paie pour vous le donner le service. Je sais, j'ai entendu dire que présentement, on faisait des efforts au privé pour les jeunes qui pouvaient s'inscrire sans avoir des notes de 90-95%, puis qu'ils les gardaient sur place. Mais encore là, c'est drôle à voir. Moi, le privé, j'y crois, mais en autant qu'on paie pour avoir les services. L'argent qui est mis au privé, c'est des millions et des millions de dollars qui devraient arriver pour le public pour aider les jeunes décrocheurs. Ces jeunes-là ont besoin d'être aidés et on n'a pas les sous pour le faire.
Les décrocheurs, est-ce qu'on s'en occupe suffisamment dans le sens, est-ce que quand ils font des pas, on est toujours dans l'école publique et privée, mais dans le public, on va y aller avec le public, est-ce que quand ils font des pas, est-ce qu'on les, et qu'il y a des petites réussites, est-ce qu'on les encourage assez pour dire « vas-y, ne lâche pas » ou finalement, on ne les voit pas, ces jeunes-là?
Non, je pense que le public fait ce possible pour les aider. Moi, je pense qu'on les encourage aussi quand ils ont des résultats puis que ça fonctionne bien. Mais à un moment donné, quand le jeune, il ne veut plus aller plus loin, le public n'a pas le choix de le référer. Et le public ne met pas dehors. Le public réfère ces jeunes-là à des organismes communautaires comme la Maison Jonathan, à d'autres organismes communautaires qui font partie du ROCLD, du regroupement des organismes communautaires en lutte au décrochage au Québec. Ces jeunes-là sont aussi référés. Il y a d'autres moyens pour les aider. Mais quand l'école a tout fait pour aider ce jeune-là, puis finalement, au bout de la ligne, ça ne marche pas. Bon, il y a des moyens aux côtés que les gens des commissions scolaires vont aller chercher pour supporter ces jeunes-là. Et entre autres, c'est ce qui fait partie de la Maison Jonathan.
Oui. Alors, parlez-moi. Vous êtes là depuis... vous êtes directrice depuis 2000. Racontez-moi comment ça se passe. Quand vous êtes arrivée là, est-ce que vous aviez un but à vous dire, bon, mais moi, je vais aider tant de jeunes à raccrocher, un petit peu à se mettre des quotas. Comment ça a été au début?
Bah, d'abord, au début, on est venu me chercher pour remplacer un congé sans solde de 6 mois. Avant qu'on vienne me chercher, toute ma vie, quand j'étais présidente de la commission scolaire, il y avait toujours des soupers bénéfices annuels à la Maison Jonathan. Et je participais à ces soupers-là comme présidente des commissions scolaires. Et je me disais toujours, quand j'allais à ce souper-là, puis que je voyais les jeunes qui venaient parler de la Maison Jonathan, du bien que ça leur faisait, je me disais, un jour, j'irai faire du bénévolat à la Maison Jonathan. J'aimerais ça être dans le milieu pour vivre avec ces jeunes-là. Et par hasard, on est venu me chercher pour remplacer un poste de direction générale, et je ne suis jamais partie. Ça fait 16 ans que je suis là. Ça fait 16 ans que je travaille à la Maison Jonathan. Mon but, c'était de m'impliquer auprès de ces jeunes-là, d'être capable aussi de leur donner l'expérience que moi aussi j'ai vécue. Ça n'a pas toujours été facile dans nos vies, puis des décrocheurs dans la famille des Leblanc, il y en a quelques-uns aussi.
Avez-vous déjà pensé, vous, décrocher?
Oui, ça m'a déjà arrivé de décrocher, parce que, d'un, quand on est en région, on est loin du profit qui est à Montréal, on a des écoles... primaire et secondaire, mais après, on doit partir. Même si je rêvais dans mon jeune âge d'aller ailleurs, puis avoir un métier, puis faire autre chose que la misère que ma mère a eue pendant toutes ces années de vie, j'avais quand même peur de partir. Donc, j'aurais pu très bien décrocher. J'en ai dans la famille chez nous qui ont décroché.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes accrochée?
Probablement parce que je voyais trop la vie que ma mère faisait. Puis je voyais aussi qu'aux Îles-de-la-Madeleine, des métiers, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de job. Il y a des emplois, il y en a pour peut-être 30% de la population, puis on est 14 000. Je me disais, c'est pas vrai que tu vas travailler, par exemple, dans le poisson. Il n'y a pas une honte de travailler dans le poisson, mais comme étudiante, j'ai déjà travaillé à arranger les morues, puis les filets, etc. Mais c'est pas un métier, ça n'a pas de bon sens. Les gens se font mourir. C'est à partir de là, après que j'ai commencé à travailler dans les usines, parce que bien sûr, il fallait aussi apporter un peu d'argent à la maison, je ne vivrai pas ça toute ma vie. Il faut que j'aille me chercher un métier. Et c'est comme ça que j'ai dit à mes parents, ben moi, je veux partir étudier à Montréal. Et quand tu as une grosse famille comme celle-là, puis tu n'as pas les moyens, c'est pas évident. Il a fallu que je fasse des prêts étudiants pour partir étudier. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer étudier à Montréal. Donc, j'ai décidé, dès l'âge de 17 ans, de partir, faire un emprunt chez Desjardins, puis m'en venir étudier à Montréal. Et toute ma vie d'étudiante, mes parents ne m'ont pas aidée financièrement. Mais je voulais plus retourner travailler aux îles, dans les usines à poissons où on exploite des travailleurs, particulièrement des femmes qui travaillent dans ces usines-là.
Travaillent fort. Hein.
Travaillent fort. Je vous dirais qu'encore aujourd'hui, j'ai discuté au mois de mars, à la semaine de relâche, je suis allée une semaine aux îles. Une dame qui travaille à l'usine depuis déjà presque 20 ans gagne encore le salaire minimum. C'est impensable. Mmh. Donc ça, ça a tout été des raisons que je me suis dit, je vais aller ailleurs, je vais aller me chercher un métier, puis je vais vivre comme du monde.
Et vous avez trouvé votre rêve.
Et j'ai trouvé mon rêve, bien
parce
sûr.
Parce que votre rêve, c'était finalement d'aider à ce que les jeunes ne décrochent pas.
Voilà. Mon rêve, c'était... Moi, j'avais des enfants qui étaient à l'école, qui n'avaient quand même pas de difficultés. Ma fille, un peu plus, mais ça a super bien été. Donc, je me disais, pourquoi pas donner aux jeunes, aux adolescents, adolescentes qui ont des difficultés, mon expérience de vie. Puis, en même temps, je leur dis, garde, l'éducation, c'est essentiel. Je vais te donner un coup de main autrement qu'en étant à la commission scolaire.
Est-ce qu'on n'est pas dans une société où on les abandonne, justement, les adolescents? Quand ils sont tout petits, on les chouchoute, là on fait attention, puis à un moment donné, là où ils ont plus besoin, là où ils se cherchent, on a l'impression que dans ce corps qui est grand, que tout est grand, alors que c'est complètement faux. C'est là où le parent, le rôle de parent, ou même la société devrait dire, attention, là, son nom, c'est pas un nom, c'est tout simplement parce qu'il fait sa marque. Et il y a une espèce d'abandon de la société des adolescentes et des adolescents.
Oui, je suis d'accord avec ça, moi aussi. On les abandonne trop vite. Tu sais, on a l'impression qu'ils ont 14-15 ans puis qu'ils deviennent des adultes. C'est pas vrai. Ils ont besoin de nous, les parents, jusqu'à l'âge adulte. Mm. Puis moi, je vous dirais qu'ils ont encore plus besoin quand ils ont 13-14-15 ans. Parce que si on est là pour les soutenir...
C'est là que ça se passe.
C'est là que ça se passe.
La déroute, elle...
Puis ils rencontrent des jeunes aussi qui s'emportent très bien pour eux, puis ils embarquent dans des gangs, puis ils se laissent aller.
L'alcool, la drogue peut rentrer à ce moment-là parce qu'on ne s'en occupe pas, puis on ne les a pas vus, puis là, ça... Ouais.
Ben oui, voilà. Donc, il faut les accompagner jusqu'à l'âge de 16-18 ans, tant qu'ils ne sont pas rendus au cégep. Ils ont besoin qu'on soit là pour les écouter. Ils ont besoin qu'on soit là pour dire, ben oui, c'est pas grave, t'as une difficulté aujourd'hui. On va t'aider, tu vas passer au travers. Mais si on le fait pas, sur qui les jeunes ils se fient? Des groupes, des gangs de rue, etc. Puis c'est pour ça qu'on a tant de jeunes qui décrochent, malheureusement, parce qu'on n'est pas en arrière d'eux.
Alors, on vous avait choisi Fred Pellerin, Tenir debout. Pourquoi?
Ah, Fred Pellerin, c'est un grand conteur. Il vulgarise tellement bien les paroles québécoises. Il est doux, il est tendre à écouter. Je suis impressionnée, moi, par Fred Pellerin. Je le verrais toutes les semaines si j'avais moyen de le voir. Mais... Puis, en même temps, c'est des contes qu'il nous raconte. Il banalise un peu la situation, entre autres, de Saint-Élix, Caxton, puis tout le reste. Je l'aime beaucoup.
On l'écoute.
Soliloque sur la semelle de mes bottes quand elles se frottent au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque à couvert, on chuchote. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de gris et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Thank you.
défaite qui vaut toutes les victoires, quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout.
Alors, vous avez, vous, appris à vous tenir debout, Fernande Leblanc-Sénéchal?
Oui, tout à fait.
Hein?
Oui,
vous
oui.
Avez... Puis vous le faites tout le temps dans votre organisme. On va parler, j'ai le dire, donc c'est, ça a été fondé en 1981. C'est nommé en référence à l'histoire de Jonathan Livingston, le goéland de Richard Bach. Vous aidez les décrocheurs de 12 à 17 ans sur la rive sud, vivant des difficultés sur le plan personnel, familial, scolaire et social. Et il y a une vingtaine de personnes qui travaillent avec ces jeunes. Racontez-moi comment ça fonctionne du début, c'est-à-dire il y a un jeune qui vient vous voir, comment et par qui il est, il se rend chez vous, comment ça fonctionne?
D'abord, avant que le jeune arrive à la maison Jonathan, il nous est référé par les écoles secondaires de la Commission scolaire Marie-Victorin et des Patriotes.
Okay.
Donc, la Commission scolaire nous envoie le dossier du jeune en nous disant, bon, ce jeune-là, il est décroché, il faudrait lui trouver une situation, est-ce que vous voulez le rencontrer? Donc, ce jeune-là nous appelle à la maison Jonathan avec le parent pour nous dire qu'il aimerait ça venir visiter la maison Jonathan. Donc, à partir du moment où le jeune appelle, il est transféré à un de mes intervenants psychosociaux pour faire la rencontre de la maison Jonathan. Donc, il vient avec son parent rencontrer l'intervenant qui lui présente la maison Jonathan. Qu'est-ce que la maison Jonathan peut faire pour lui? Que s'il vient à la maison Jonathan, bien sûr, il devra choisir des ateliers manuels et aussi les ateliers académiques quand il sera prêt. Et suite à ça, quand le jeune a fait tout le tour de la maison, qu'il a discuté avec l'intervenant lui donne une journée ou deux pour réfléchir. Est-ce que tu as vraiment le goût de venir à la maison Jonathan? Parce que si tu viens à la maison Jonathan, tu vas aussi y travailler en allant à la maison Jonathan. Il y a aussi des codes de vie, il y a des consignes. Tu ne feras pas ces classes que tu faisais à l'école. Décroche, de pas te présenter à l'école le matin, de pas écouter, etc., etc. Donc, vraiment, tout l'ensemble du travail qu'on fait à la maison Jonathan et parler avec le jeune et le parent. Donc, le jeune sait à quoi s'en tenir, le parent sait aussi à quoi s'en tenir. Donc, après que le jeune est au courant de tout, il peut retourner chez eux, puis on lui donne quelques jours, puis quand tu seras prêt, tu nous appelles, puis là, on pourra faire l'inscription.
Le but du parent, là, d'amener le parent dans cette réunion, c'est quoi?
C'est que le parent accompagne le jeune, qu'il suive le jeune à la maison Jonathan. C'est clair que pour nous, il est important que le parent soit impliqué dans la réussite du jeune. Et nous, on peut le faire parce qu'on est un organisme communautaire, on reçoit 45 jeunes par année, on n'est pas une école. Donc, c'est clair que maintenant que votre jeune est décroché de l'école et qu'il n'est plus là, nous, on va l'aider. On va lui donner les outils nécessaires pour qu'il retrouve son estime de soi, pour qu'il se trouve un projet de vie, mais vous allez nous aider.
OK. Alors, là, il y a la rencontre. Là, le jeune retourne chez lui et il réfléchit à ce qu'il a vu et ce qu'il a envie de faire.
Voilà. Et après, quand le jeune nous appelle pour me dire, ou le parent, bon, mettons, Frédéric, il est prêt, il est d'accord pour aller à la maison Jonathan, ce qu'on fait, c'est un de mes intervenants qui l'a reçu en entrevue avec un autre employé de la maison Jonathan va faire l'inscription directement à la maison. Donc, en allant faire l'inscription à la maison chez le jeune, ça nous permet de voir dans quel milieu le jeune y vit.
Comment c'est bien ça. Oui. Donc là, vous connaissez les parents.
Voilà, on connaît les parents.
Un des parents. Ensuite, un des parents vient. Ensuite, là, vous allez faire l'inscription dans la maison.
Voilà. Depuis quelques années, on va faire l'inscription dans la maison pour être capable de faire un plan d'intervention. On sait où on s'en va. Parce qu'on a passé une heure et demie dans la famille avec le jeune et le parent et les frères et sœurs et les conjoints.
Ça dit beaucoup pour la pauvreté, pour le...
C'est incroyable.
Ça doit être... c'est une ressource.
Ouais. Ah, c'est incroyable ce qu'on peut découvrir. Puis en même temps, ça nous permet aussi de se rendre compte pourquoi le jeune, il est dans cette situation-là.
Ouais, ouais, ouais. Ça vous révèle un petit peu.
Ah, ça nous révèle.
S'il y a la pauvreté, s'il n'y a rien, et vous arrivez à une table, c'est une boîte de carton, là, on dit, bon, ben, garde, là.
Tout à fait, ouais, oui, on peut voir la pauvreté. Puis il y en a beaucoup de pauvreté qui existe chez ces jeunes-là, puis chez les parents. Donc, ça nous permet, nous, de voir tout ça et d'être capable de préparer un plan d'intervention quand les jeunes, ils vont rentrer chez eux.
Alors, on est rendu à l'étape où, donc, vous êtes rendu dans la maison du jeune.
Oui.
Vous restez une heure et demie.
À peu près.
Okay.
Et là, avec l'inscription du jeune au bout d'une heure et demie, on présente au jeune qu'est-ce qu'il peut choisir comme atelier. Par exemple, on présente les ateliers. Et là, le jeune, après la rencontre, il décide que, ben oui, je vais y aller à la maison Jonathan. Oui, moi, j'ai le goût de me prendre ma main. Puis, même si je n'ai pas envie, là, il sait de toute façon qu'il ne vient pas à la maison Jonathan, il est dans la rue. Quand il est décroché de l'école, il est ailleurs. Là. Il n'est plus à l'école. Là. L'école l'a référé à la maison Jonathan. C'est fini. Tu ne reviens pas chez nous si tu ne décides pas d'aller à la maison Jonathan pour te faire aider. Donc, c'est un choix. Je ne peux pas dire que c'est un choix forcé, mais c'est un choix qu'il doit faire. Donc, s'il vient, il sait qu'il faut qu'il s'implique. Il sait les conditions pourquoi il vient à la maison Jonathan. Qu'est-ce qu'on va l'aider? Mais en même temps, il faut qu'il fasse des efforts aussi. Donc, généralement, quand on fait des visites à la maison, les jeunes, ils s'inscrivent. Ils savent.
Vous avez votre réponse en sortant?
Oui. Je pense que mes intervenants savent déjà en sortant que le jeune, il va venir.
Qu'est-ce que vous faites si... je joue à l'avocat du diable, là, mais...
Oui.
Si le jeune vous dit non?
Bien, c'est sûr que si le jeune nous dit non, on trouve ça dommage. Nous, on lui aura offert toutes les possibilités, mais on a tellement une liste d'attente que si ce jeune-là, il ne veut pas venir, on va en prendre un autre. Et ça, on lui dit aux jeunes aussi dans l'entrevue. On ne te force pas à venir. On aimerait bien que tu viennes. On est capable de t'aider. On est capable de te supporter dans ta période de la prochaine année. Mais c'est un choix que tu fais. Tu ne peux pas nous laisser traîner pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. J'ai d'autres jeunes qui attendent pour rentrer.
Alors,
donc, c'est sûr qu'on en refuse quelques-uns.
Vous êtes un ange avec la maison Jonathan parce que vous sauvez notre jeunesse. Hein?
Un peu ça,
parce que de décrocher, raconter une fois qu'il a dit oui... Là, il s'inscrit à ces ateliers-là, à l'intérieur. Le manuel est très important. Hein. J'ai l'impression que ça aide aussi à se dire, bon, l'école, hein, on le sait très bien que l'école, c'est assez intellectuel et tout ça. Et le fait d'être manuel, parfois, il y a des enfants et des jeunes qui sont beaucoup plus manuels et se retrouvent une voie, une vie là-dedans. Donc, ils font des ateliers manuels.
Tout à fait, oui. Mais quand le jeune, il arrive chez nous, généralement, on va l'inscrire pour une journée à la fois. Pour qu'ils soient capables de s'acclimater, parce qu'il arrive d'un nouveau milieu qu'il ne connaît pas. C'est un jeune aussi qui, avec les adultes, dans les écoles, ne fonctionne pas, très gêné, très, très, très timide. Donc, on commence par une journée à la fois. Donc, il a choisi avec son intervenant les ateliers manuels qu'il veut faire. Donc, dès la première journée qu'il arrive, d'abord, il est présenté aux autres jeunes. Il est présenté aussi au personnel le matin avant que les jeunes arrivent. Et là, le jeune est mis dans un atelier manuel avec ou un bénévole ou un membre du personnel, parce qu'on avait un membre du personnel, mais on a quand même une trentaine de bénévoles par année qui viennent faire des ateliers manuels. Voyons, le cuir...
Peinture aussi.
Peinture, peinture, vitrail, d'ébénisterie. On a une vingtaine d'ateliers comme ça. Donc, le jeune est pris en main par le bénévole à compter de 9h15 le matin. C'est des ateliers d'une heure. On a 4 ateliers par jour. Donc, le bénévole va travailler avec le jeune pour lui apprendre un peu le métier de l'ébénisterie, le métier de vitrail, de cuir, de couture.
Alors, donc, il y a le programme passage, le programme d'alternative et la suspension offerte aux écoles secondaires du Vieux-Longueuil.
Oui.
Parlez-moi de l'estime d'eux, en terminant. Est-ce que vous le voyez à partir du jour 1? Puis le fait qu'il raccroche, il prend de l'estime de lui-même.
Beaucoup. Le jeune, quand il arrive le matin, il a la tuque en bas du nez. Et tranquillement, au fur et à mesure que les semaines, les mois avancent, la tuque elles se lèvent et rendues au mois de mars, avril, on leur voit les yeux. Ils sont tellement beaux, tellement fiers de ce qu'ils accomplissent à la maison Jonathan. C'est incroyable. Parce qu'au début, ce jeune-là, on l'a toujours dit que c'est un bon rien, qu'il ne ferait jamais rien de bon. Aïe. Et nous, on a réussi dès le départ à lui donner l'estime de soi. Tu étais capable, mon grand, on va t'aider. Vas-y, tu as juste l'effort à mettre. Puis, tranquillement, au fil des mois, la tuque se lève. Et quand il est parti en juin, je vais vous dire qu'il a plus de tuque sur la tête. Là, il est heureux d'avoir accompli quelque chose, puis qu'on lui ait dit pendant une année, « T'es bon, t'es capable. »
Donc, il est méconnaissable.
Méconnaissable. Et ça, on a beaucoup de témoignages des parents, d'ailleurs, et des écoles après. Il est méconnaissable, ce jeune-là, parce qu'enfin, il a appris quelque chose sur lui.
Ils reviennent vous voir après, quand ils sont dans la vie, dans le chemin de la vie?
Je vous dirais que presque toutes les semaines, tous les mois, on a des jeunes qui sont passés à la maison Jonathan depuis des années qui viennent nous voir. On laisse toujours une porte ouverte. Les intervenants, les éducateurs, ils lui disent, si tu as un problème dans ta vie quelque part, on est là pour toi. Et on a plein de jeunes qui viennent nous rencontrer une fois par semaine, une fois ou deux semaines. On fait même un super bénéfice en mai chaque année. Et on a toujours un jeune qui vient témoigner de son passage à la maison Jonathan. Et avec un parent, d'ailleurs, qui vient dire le bien que ça leur a fait à ces jeunes-là.
Alors, vous avez sans doute des besoins pour les gens qui nous écoutent. Avez-vous besoin de bénévoles en ce moment? C'est le temps d'en parler.
Alors, c'est clair qu'on a besoin de bénévoles dans tous nos ateliers. Vous pourrez aller sur le site Internet ou sur Facebook, la maison de Jonathan.ca. On a des demandes de bénévoles et bien sûr, on a des demandes de sous parce que, comme tous les organismes communautaires, on a besoin de faire des soupers bénéfices ou aller chercher de l'argent pour être capable d'offrir à ces jeunes-là le soin qu'ils ont besoin pendant qu'ils sont chez nous.
Soutien nécessaire, oui.
Tout à fait, oui.
Tout à fait. Oui. Alors, on fait une petite pause, histoire de revenir avec le jeu questionnaire de l'émission, et ce sera la fin de l'émission.
Parfait.
Alors, Madame Fernande Leblanc, Sénéchal, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Oh, ben d'abord, ma mère, qui est une femme extraordinaire. Ma sœur, Denise Leblanc-Benté, qui a été la première députée femme aux îles de la Madeleine. Ça, c'est un exploit tout à fait exceptionnel. Pauline Marois, bien sûr, que j'ai dans mon cœur et qui restera le reste de ma vie. C'est une femme extraordinaire pour le Québec. Malheureusement, on ne l'a pas mis au... Comme elle n'a pas été assez longtemps première ministre du Québec, malheureusement, je dis bien. Et bien sûr, Jeannette Bertrand, qui pour moi est une exemple de femme qui a fait avancer la cause des femmes au Québec. Merci, bravo pour ces femmes.
Alors, et vos mentors?
Oh, mes mentors, bien sûr. J'ai eu, par exemple, un Jean-Louis Tousignan, qui était directeur, qui est président maintenant de l'ACETA, qu'on appelle l'Association québécoise des élèves en troubles d'apprentissage. C'est un de mes mentors. Il y a eu Réal Boucher aussi, qui était directeur des ressources humaines à Marie-Victorin, à Taillon, dans le temps, qui m'a appris plein de choses dans ma vie. Et il y a Roch Bourbonnais, mon président du conseil d'administration de la Maison Jonathan, qui est avec moi pendant les 15 ans, qui nous a laissés à 83 ans pour aller faire d'autres bénévolat ailleurs. Donc, ces hommes-là, c'est des gens qui m'ont marqué dans ma vie.
Vos livres que vous nous recommandez?
Bien sûr, je vous recommanderais le Silence a une fin de Ygrine Bettencourt, que ça m'a impressionné, le courage qu'elle a eu pendant qu'elle est hantée en captivité pendant 6 ans. C'est waouh, lisez-le, c'est vraiment un bon livre. C'est triste, mais c'est bon. C'est bon. J'ai aussi le livre de Francine Ruel. Francine Ruel, moi, elle me fait rire. Entre autres, Le bonheur es-tu là, Maudite maison jaune. Tu sais, elle raconte ses histoires. C'est agréable à lire en vacances sur le côté de la plage. Magnifique.
Et vos villes préférées?
Mes villes préférées, bien sûr, il y a les îles de Madeleine, je ne m'en cache pas. Il y a Paris, Florence, Barcelone, New York, Boston, toutes les grandes villes que j'aime beaucoup. C'est différent, l'effervescence différente. C'est des bonheurs quand je me retrouve là.
Merci, merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous.
Le plaisir est pour moi.
Et merci, merci. De ce que vous faites pour les jeunes.
Merci.
Merci à mon équipe Jean-Sébastien La Liberté, la réalisation de l'émission. Christiane Campagna est à la recherche de l'émission et Kevin Breton aux médias sociaux. Au revoir.